France Musique. France Musique.
Et tout de suite sur France Musique, nous mettons le cap vers la Sérénissime. C'est le premier volet d'un diptyque vénitien dans cette série de rediffusion d'été de l'air des lieux. Bienvenue.
Oh, what an elegant room!
Well, it's not Buckingham Palace, but it's Wilson's little castle.
C'est difficile de se représenter Venise telle qu'elle était au temps de Monteverdi. Il faut vraiment échapper au tourisme. C'est le grand problème. Le grand problème, mais on arrive à y échapper par des petites rues et on s'aperçoit, enfin, le long de petits canaux, que peut-être il y a quelque chose. Là, ce matin, je me disais, enfin, on entre dans n'importe quelle église, on tombe sur des Tintorets, sur des Tiepolo, juste à côté, là, nous sommes au Campo Santa Margherita, juste à côté, au Carmini, il y a un Lorenzo Lotto, il y a Cima di Conegliano. Donc, tout est habité, mais je pense que il faut creuser, alors que sans doute, du temps de Monteverdi, il suffisait de se promener.
L'air des lieux à Venise.
L'aria dei luoghi à Venezia.
Avec Paul Agnew à Venise.
En compagnie des arts florissants dans les madrigaux de Monteverdi.
Sous France Musique.
C'est sur France Musique.
Fino alle 17.
Jusqu'à 17h.
Perfetto.
Bonjour Paul Agnew.
Bonjour.
On ouvre avec vous le cinquième numéro de cette nouvelle saison de l'Air des lieux. Et nous sommes à Venise. Une certaine idée du bonheur quand même,
ah, oui,
me disiez-vous juste avant qu'on ouvre le micro.
Voilà.
Où d'ailleurs exactement ici? Nous sommes dans quel quartier?
Pour être très honnête, je ne peux pas être sûr. Il y a un gondolier qui vient de passer, qui était visiblement pas très content de quelque chose. Mais on est tout près des endroits très importants. On est tout près de Basilique des Frari, le Scuola Grande. On voit juste à côté de nous un canal. C'est très typiquement Venise. Et on est bien sûr devant nous un bon cappuccino. Donc tout se passe bien. La première fois que je suis entré à Venise était maintenant il y a 25 ans, peut-être un peu plus. Et en fait, et depuis, j'ai toujours fait l'effort d'entrer en bateau. Parce que Venise, c'est très difficile maintenant. On n'a plus l'habitude de prendre les bateaux, même certainement pas à Paris, non plus à Londres. Mais Venise est construite d'être vue de l'eau. Nous, quand on passe dans les petites ruelles ici, on est derrière tous les bâtiments. On voit le derrière des bâtiments. Même si, de temps en temps, quand on arrive sur le Grand Canal, on peut voir en face les grands palais. Mais quand on arrive en bateau, oui, on comprend qu'il y a un côté énorme en théâtral. Ça veut dire qu'il y a une apparence. Les gens qui ont construit ces palais voulaient montrer quelque chose de leur patrimoine, de leur personnalité. Et bien sûr, c'est fortement théâtral, oui.
On va peut-être faire un bout de chemin ensemble qui va nous conduire justement donc Poragno à la Scuola Grande di San Rocco, où vous donnez ce sixième livre des madrigaux de Monteverdi, répétition, puis concert ce soir avec les chanteurs et les musiciens des Arts Florissants.
Super, on y va ?
On y va.
Je peux les casser.
Thank you. On fait le chemin qui nous amène jusqu'à la Scuola Grande di Sandro Coporegno. À quel moment de votre parcours de chanteur, d'interprète, vous vous êtes intéressé à Monteverdi et à sa musique?
Au tout début de ma carrière, j'ai passé à peu près un an dans les chœurs à Londres, dans le Monteverdi Choir ou dans le Sixtine. Mais j'ai vite trouvé ça un peu frustrant. Et donc, j'ai cherché d'autres opportunités. Et j'ai tombé sur une poste dans le Concert of Music, qui est un ensemble qui concentrait exclusivement sur les madrigaux anglais et italiens. Et donc, à l'âge de 23 ans, je me suis plongé dans ce répertoire de Monteverdi, de Wert, de Pallavicino, de Marenzio, et également, bien sûr, des grands compositeurs anglais. Et donc, c'est une musique... J'étais un peu formé pour ça, parce que j'étais à Oxford avant, et j'ai beaucoup chanté dans les ensembles là, et il y a une sorte de technique de chanter en ensemble qui s'apprennent. En Angleterre, on a la chance que ça s'apprend très tôt, comme chanteur dans l'église. Et donc, à l'âge de 23 ans, j'étais déjà dans cette musique et je l'adorais tout de suite. Je trouvais que c'était une musique d'une telle expressivité, d'une telle opportunité, surtout pour le chanteur. Je me suis réjoui.
On a dit 1614 hein, pour la publication de ce sixième livre des madrigaux de Monteverdi, Poregnu. Mais en vérité, l'écriture de ces madrigaux, il l'a entreprise extrêmement jeune.
Oui. Il était compositeur. En fait, il a publié son premier œuvre, qui était les trios pour l'église, à l'âge de 15-16 ans. 17 ans, il était déjà lancé. Et c'est drôle, on pensait que le premier livre de Madrigaux, qui est publié à l'âge de 19 ans, est déjà son quatrième publication. Donc c'est quelqu'un avec beaucoup, beaucoup d'ambition, même s'il se trouvait à Crémone, qui n'est pas une ville d'une énorme importance pour la musique vocale à l'époque. Et il a eu comme professeur Ingenieri, qui était le maestro di cappella à Crémone, qui est aussi un compositeur assez conservateur, qui s'intéressait pas beaucoup au développement qui se passait ailleurs, surtout à Florence à l'époque. Et donc, le début de sa carrière, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ambition chez Monteverdi, mais il est quand même, au début, un compositeur Renaissance, typiquement Renaissance.
Alors, on a fait une petite pause avant de rejoindre San Rocco, parce que, vous allez le décrire pour nous, Poregno, le lieu dans lequel nous sommes, un pont, donc, sur l'un des canaux de Venise, et juste en face de nous, un lieu évidemment qu'on rejoindra aussi un tout petit peu plus tard d'ici 17h et d'ici la fin de cette émission. Je vous laisse nous dire ce que c'est.
Oui, il y a Parrocchia Santa Maria Gloriosa dei Frari. Et ça veut dire qu'on approche le grand basilique des Frari, qui est un des lieux le plus extraordinaire à Venise. Et c'est pour nous très important parce que c'est là où on trouve le tombeau de Claudio Monteverdi, mais avec beaucoup, beaucoup d'autres musiciens et peintres, artistes. Et c'est un lieu, bien sûr, aussi très important pour la musique. L'air des lieux, avec Paul Agnew à Venise, sur France Musique, jusqu'à 17h.
Alors, dans un instant, on va vous entendre répéter avec les musiciens et les chanteurs des Arts Florissants, et puis vous-même, hein, vous ne faites pas que les diriger, ces musiciens et ces chanteurs-là, vous êtes avec eux, interprètes, bien entendu. Comment choisit-on les bonnes voix pour chanter des madrigaux, et par exemple ce sixième livre des madrigaux de Monteverdi, Paul Agnew?
Ouais, c'est un grand parti du travail, c'est fondamental, bien sûr. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir sélectionné une équipe. Bien sûr, les belles voix sont essentielles, mais plus que ça, il faut une intelligence et un vrai intérêt dans le répertoire, un vrai enthousiasme pour les possibilités de ce répertoire. Et aussi, il faut dire, pour les jeunes chanteurs, c'est toujours leur ambition, c'est d'être des grands solistes. Et moi aussi, c'était ça mon ambition à 25 ans. Mais il faut chercher les chanteurs également qui s'intéressent de s'exprimer ensemble. On est une par voix, bien sûr, donc c'est essentiellement un travail de soliste. Mais quand même, c'est une autre écoute, c'est une autre façon de travailler. Donc il faut une certaine intelligence musicale, une capacité de travailler avec les autres, une capacité extraordinaire à la réinvention de la musique. Parce que nous, on n'a aucune intention de faire le même concert chaque soirée. Et si on est très très discipliné et très à l'écoute des autres, tout peut se passer pendant le concert. Et c'est ça qui rend la musique vivante. Et c'est ça qui rend la musique passionnante pour les auditeurs.
Il y a ces madrigaux, il y a les opéras de Monteverdi, il y a toute la musique de lui que l'on connaît, je veux dire, qui est arrivée jusqu'à nous. Il y a toutes celles que l'on ne connaît pas, c'est-à-dire toutes celles qui a été perdue.
C'est absolument gigantesque. Je crois qu'on a perdu la plupart de la musique de Monteverdi. Il y a des centaines de madrigaux qui sont complètement perdus, qui existaient en manuscrit et qui sont perdus, qui sont utilisés pour allumer le feu le soir. Et ici à Venise, par exemple, la musique sacrée, il reste une certaine quantité, mais rien à voir avec la vérité.
Je vous laisse décrire la place sur laquelle nous sommes, Paul Agnew.
Oui, c'est extraordinaire. On a l'église San Rocco devant moi, qui est magnifique. C'était refait au début du XVIIIe siècle, donc c'est pas tout à fait exactement comme Monteverdi l'a vu. Mais c'est quand même un lieu d'une très très grande beauté. Et quand on entre, il y a un chœur avec tous les placements pour les musiciens. Donc c'est extraordinaire de voir ça. Et puis à ma gauche, il y a la Scuola San Rocco où on va faire le concert ce soir. C'est effectivement deux grandes salles avec les tintorettes extraordinaires sur les murs. Et ça respire la fin de Renaissance, le début de Baroque. Et ça inspire énormément. Et puis juste derrière moi, et on entend en fait la cloche des Frari, c'est l'énorme église en briques, qui est un espace phare ici à Venise, où se trouve le tombeau de Monteverdi. Donc on a de la beauté autour.
Merci Paul Agnew, on va vous laisser alors aller travailler, répéter, on va se glisser, se faire discret ici dans la Scuola di San Rocco, puis on se parlera un tout petit peu plus tard, peut-être sous l'étoile et enfin je veux dire entouré de tous les tableaux du Tintoret.
Génial.
À tout à l'heure.
Super.
Thank you.
C'est l'air des lieux sur France Musique. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h et nous sommes aujourd'hui à Venise et précisément devant la Scuola Grande di San Rocco. C'est ici que Paul Agnew et les Arts Florissants joueront ce soir le sixième livre des madrigaux de Claudio Monteverdi.
Grazie.
Parmi les spectateurs du concert que donnait à Venise Paul Agnew et les Arts Florissants, il y avait René de Secati. Il est écrivain, c'est un amoureux de l'Italie, un fin mélomane. C'est lui qui signe d'ailleurs la nouvelle qui accompagne un volume des Madrigaux de Monteverdi, premier disque d'une anthologie dirigée par Paul Agnew et qui paraît ces jours-ci. Le texte de René de Secati s'intitule « La Sibylle et la fresque des illusions ». Est-ce que je peux vous demander de juste lever les yeux, juste au-dessus de nous, me dire tout simplement ce que vous voyez ici, dans cette Scuola Grande di San Rocco?
On voit donc la voûte qui a été faite par Tintoret, où il y a différentes scènes de la Bible. Il y a le sacrifice d'Abraham un peu plus loin, il y a la manne qui tombe du ciel, il y a différents épisodes. Bien sûr de la vie du Christ également, puisqu'il y a également des hauts parois, des moments de l'Évangile. Alors c'est comme une leçon de religion en raccourci, et on a l'impression d'être dans un tourbillon, comme si chaque image ne s'arrêtait pas. C'est un musée, mais ça n'a pas été conçu comme un musée, et il n'y a pas la gêne que l'on a dans une église. Dans une église, on est toujours un peu gêné de voir des œuvres d'art, parce qu'on ne doit pas regarder normalement une œuvre d'art, tandis que là, c'est quand même... on se sent complètement à l'aise.
Et alors justement, vous rappelez à juste titre que ça n'a pas été conçu comme un musée, mais elles ont été conçues pour qui et pourquoi, justement, ces écoles ici à Venise ?
Ce sont des écoles laïques, en fait, mais qui étaient des fraternités, qui étaient conçues pour accueillir, évidemment en fonction de la religion, mais ce n'était pas des lieux de méditation et d'office, en tous les cas. Donc les peintres, au fond, ont une beaucoup plus grande liberté que dans une église. Là, et surtout, là, c'est un peu comme dans la chapelle Sixtine, c'est-à-dire que c'est la totalité. C'est au fond la vision du monde et de la religion par un seul peintre, ce qui est absolument formidable.
Et alors, ce qui est étonnant, et ce que peut-être me confiez-vous tout à l'heure au micro, René Tsekati, c'est qu'ici, on entend donc de la musique. C'est cette salle qu'a choisie Paul Agnew avec les musiciens et les chanteurs des Arts Florissants pour donner ce sixième livre des Madrigaux de Monteverdi. Mais qu'au fond, vous-même, qui connaissez évidemment extrêmement bien Venise et ce lieu singulièrement, vous n'auriez pas pensé entendre de la musique ici ?
Non, et peut-être dire... Non, jamais j'aurais imaginé, bien sûr, qu'il y aurait un concert. Parce que le problème, c'est que... Déjà, Tintoret, c'est tellement plein, déjà. C'est une peinture qui est extraordinairement vivante et mouvementée. Alors, est-ce que Monteverdi convient à Tintoret? C'est une question qu'on peut se poser pendant la répétition, la question que je me pose, parce que c'est deux expressions tellement fortes, toutes les deux, légèrement décalé dans le temps, Tintoret et un petit peu avant Monteverdi. Donc c'est assez étrange comme impression. On se demandait avec Paul Agnew avant de venir, au fond, qu'est-ce qu'il aurait fallu dans l'idéal? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu des Caravage plutôt que... Et ça dépend si c'est la musique que l'on écoute ou si ce sont les paroles, parce que les paroles évidemment des madrigaux de Monteverdi ne conviennent pas tout à fait à cette peinture qui est extrêmement religieuse. Ce serait les Vêpres par exemple de la Vierge ou Selva Morale, et ça aurait été différent. Mais les madrigaux sont dramatiques, extrêmement dramatiques, mais un peu plus légers que ce qui est représenté au plafond ou sur les parois. Mais ça ne fait rien, parce que on est dans l'art pur, quoi.
Il faut absolument qu'on continue. Silence. C'est bon? Oui. Una
extrêmement sensuelle, cette musique de Monteverdi, c'est ce que je me disais au fond en écoutant cette répétition de Paul Agnew avec les Arts Florissants ici à Venise.
Oui, elle est extraordinairement sensuelle et sans doute parce que la voix féminine et la voix masculine ne sont pas psychologisées. On se disait ça avec, on a parlé évidemment avec Paul, et ce n'est pas un opéra, c'est-à-dire et au fond nous avons été habitués à entendre des voix qui devaient incarner des personnages, alors que là les voix incarnent des sentiments, et c'est merveilleux parce qu'on s'aperçoit que les voix masculines et féminines disent indifféremment des paroles d'hommes ou de femmes, et parfois un sentiment lui-même est tellement complexe qu'il est divisé dans la polyphonie, quoi, il est divisé entre diverses voix, et c'est ça qui donne une sensualité inouïe, parce que souvent on est tellement arrêté à l'opéra par une incarnation trop forte et parfois un peu ridicule, il faut bien le dire. Pas uniquement parce que des chanteurs peuvent être ridicules sur scène ou parce que la mise en scène les rend ridicules, mais aussi parce qu'ils sont obligés seuls d'incarner des sentiments très très compliqués, très complexes. Et Monteverdi, au fond, a trouvé la solution avant l'opéra. C'est-à-dire en divisant une, un sentiment à travers tous ces flux de conscience que représentent ces voix. C'est ça qui est extrêmement beau, je trouve, très émouvant.
Musique.
Désolé, on a pris un peu de temps.
Non, ça va. Il n'y a pas de problème.
Il y a beaucoup à faire avec tout ça. Il y a
peu de temps. On peut se mettre un tout petit peu à l'écart. Puisque nous sommes ici à la Scuola Grande di San Rocco, Polagnu, et d'ailleurs, où chantait-on et qui chantait justement ces madrigaux de Claudio Monteverdi, du vivant, du compositeur? On entendait où cette musique?
On entendait dans les palais. Donc il y a par exemple, si on sent sur le Grand Canal, là, le Palazzo Montenigo, et là, on a entendu, par exemple, on sait qu'on a entendu pour la première fois le Combattimento di Tancredi di Clorinde, en 1624, mais ça sera certainement pas la seule manifestation de musique. Et donc, c'était dans les grands palais, ou même dans les pièces comme ici. Mais c'était pour les nobles et les conoscenti.
À quoi, en deux ou trois mots, peut-être vous vous attachiez, justement, dans le cours de cette répétition à laquelle on assistait, qu'on entendait à l'instant, Polagnu? À quel détail, peut-être, vous vous attachiez plus particulièrement, qui peut-être aussi, sans doute, sont liés aussi au lieu ici dans lequel vous allez donner ce concert?
Oui, c'est bien sûr évident que nous ne sommes pas italiens. Et donc c'est surtout le texte. Le
texte. Vous allez chanter pour des Italiens.
Voilà, on est ici, et en grande partie,
les Vénitiens.
Ça sera bien sûr les Vénitiens. Donc, mais ce n'est pas tout simplement le prononciation. Ça, on a travaillé, et puis on a retravaillé. Mais c'est l'expression de texte. C'est cette idée d'imaginer le moment quand Monteverdi met son stylo sur le papier, parce que c'est ça, c'est que lui, il a eu le poème à gauche, et rien à droite. Et donc, toute cette musique, chaque note, est inspirée de le texte qu'il lit à gauche de lui. Et donc, c'est ça, c'est d'imaginer qu'on est en train de créer la musique dans l'instant. Et donc, parler le texte dans la musique. Ce n'est pas que la musique est en deuxième degré, mais c'est la musique sert exclusivement le texte. Ça sert les émotions des poèmes extraordinaires qu'on chante ce soir.
Et puisque vous avez avec vous la partition, ce sixième livre des madrigaux, ça c'est une édition moderne, bien entendu, vous pourriez l'ouvrir, mais nous montrer à quoi ressemble, voilà, une édition moderne des madrigaux de Monteverdi, le travail qui part de la source originale jusqu'à cette partition, j'imagine qu'il est immense.
C'est absolument immense, et on a une chance extraordinaire parce qu'on a au bureau de Les Arts Poissons Pascal Duc qui a fait des nouvelles éditions pour toutes nos séries des madrigaux. Donc effectivement, à la fin, quand on a fini le huitième livre, on va avoir une nouvelle édition de tous les madrigaux de Monteverdi. Et donc là, c'est vrai que c'est pas du tout comme il chantait à l'époque, parce qu'à l'époque, il a eu des part books, ça veut dire que chaque chanteur a eu que son propre parti. Mais nous, on utilise une partition où on voit tous les voix. Parce que ça nous rend notre travail plus facile, et aussi parce que c'est ça l'habitude maintenant du 21e siècle.
quand on a sous les yeux Poragnu, comme nous l'avons en ce moment même, la beauté d'une salle comme celle-ci, ici, la Scuola Grande di San Rocco, la beauté de Venise, tout simplement, on comprend mieux d'une certaine façon et on s'imprègne mieux d'une musique et d'une œuvre qui est celle de Monteverdi, de ses madrigaux et de tout ce qu'il a composé ici dans le cours des 30 dernières années de sa vie.
Moi, je suis absolument convaincu. Je suis convaincu aussi que le groupe chante un tout petit peu différemment quand on est ici. Ça, c'est la troisième fois qu'on est venu pendant cette série de madrigaux depuis le premier livre. Et chaque fois, c'est une expérience inoubliable. Et je crois aussi, très franchement, que ça nous aide énormément d'être ici à Venise. Monteverdi est arrivé ici en 1612. Et donc là, on chante une publication qui était publiée en 1614. Donc, c'était publié ici, sous ses yeux. Et donc, on touche presque l'époque. Et ça nous aide énormément à exprimer, je crois, le cœur de ses œuvres.
Parlo la lingua sicura.
Et c'est ainsi que se conclut le Lamento d'Ariana, extrait du sixième livre des Madrigaux de Claudio Monteverdi. C'était Paul Agnew, les chanteurs et les musiciens des arts florissants.
L'air des lieux.
L'aria dei luoghi, à Venezia.
C'est sur France Musique jusqu'à 17h.
Sous France Musique, fino alle 17h.
Alors vous disiez décor, Venise, on a changé un tout petit peu de décor. On a quitté la Scuola di San Rocco pour se retrouver ici, Paul Agnew. Devant ce que je vais vous laisser de nouveau décrire, vous le faites extrêmement bien, nous sommes au Frari.
Voilà, on est au Frari, c'est une église en briques, gigantesque il faut dire, et très très impressionnant. Là on ne peut pas entrer pour l'instant parce qu'il y a la messe, mais je le connais très bien, je suis entré maintes fois parce que c'est une sorte de lieu de pèlerinage pour moi. C'est extraordinaire, il y a des temps des grands peintres, mais également il y a Monteverdi un peu caché, il faut dire, dans le 37 Nord. Et il se trouve son nom sur terre, et toujours avec les roses là-dessus, que je trouve très touchant. Je suis toujours extrêmement ému dans ces visites, parce que pour moi, Monteverdi, c'est fondamental, c'est le fondateur de notre musique. C'est impossible d'imaginer Lully sans Monteverdi, d'imaginer Purcell sans Monteverdi. Monteverdi est une énorme inspiration pour tous ces compositeurs. Et même s'il connaissait bien sa musique ou pas, il a créé une grande tradition qui est aussi importante pour Stravinsky que pour Lully.
On a évoqué tout à l'heure Paul Agnew à la Scuola di San Rocco, l'une des singularités de ce sixième livre des Madrigaux, celle qui notamment lit l'ouvrage à deux figures féminines et donc de deuil, celle qui devait être l'une des interprètes d'Ariana,
tout à fait.
L'opéra de Monteverdi, et puis l'épouse elle-même de Monteverdi. Peut-être n'a-t-on pas dit suffisamment, peut-être peut-on le dire en quelques mots ici, mais la singularité musical de ce sixième livre dans le corpus de l'intégrale des Madrigaux de Monteverdi, Paul Agnew.
Pour moi, c'est le grand chef-d'œuvre. Je suis grand fan de toutes les œuvres, des œuvres de jeunesse, et surtout le quatrième et cinquième et sixième livre. Le septième livre est autre chose, et comme on a déjà dit, et le huitième livre, c'est quasiment l'opéra. Donc le sixième livre, c'est l'apogée du Madrigal. Et donc, pour quelqu'un qui s'intéresse avec la musique d'ensemble, c'est extraordinaire. C'est vrai que c'est dominé par les deux grands lamenti. Et particulièrement le Sestine est terriblement touchant. C'est lié à cette jeune fille, Catalina Martinelli, qui est morte, qui devait chanter le rôle d'Ariana, qui est morte à l'âge de 18 ans, subitement, et qui était adorée par Vincenzo Gonzaga. Mais également, elle était logée chez Monteverdi, donc elle était un parti de famille de Monteverdi. Mais c'est également l'année où lui, il a perdu sa femme. Et ça, c'était aussi un moment terrible pour Monteverdi. On sait dans ses lettres qu'il était sincèrement amoureux de sa femme. Et sa femme était aussi chanteuse. Et donc, ils ont fait beaucoup de musique ensemble. Et on ne peut pas dire que c'est sa muse, mais il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose, une relation fusionnelle entre Monteverdi et sa femme. Quand on entend la Sestine, on entend la vérité de la douleur. de la peine de la mort, de la perte de quelqu'un adoré, aimé, quelqu'un de talent, une perte de la possibilité d'une vie plus aboutie. Et c'est une des œuvres que moi je trouve le plus touchant de tout Monteverdi.
Dernière question avant qu'on se quitte ici à Venise, René de Secchetti et Paul Agnew. On évoquait René de Secchetti avec Paul tout à l'heure. Comment l'inspiration aussi des lieux pour les musiciens qui ont à faire entendre et à donner de la musique dans diverses salles de concert. Alors ici c'était la Scuola di San Rocco, c'est plutôt pas mal. Et vous, l'inspiration des lieux pour écrire peut-être une nouvelle comme celle-ci?
Moi, j'ai pas du tout écrit cette nouvelle à Venise, ni d'ailleurs, parce que ce recueil en plus n'est pas consacré à Venise, mais plutôt à Mantoue. Mais parce que je pense que pour un écrivain, c'est très très inhibant d'être dans un lieu qui est tellement chargé. En plus, Venise, bon, il y a eu tellement de chefs-d'œuvre, ne serait-ce que Thomas Mann ou Proust, bien sûr. Donc, on est très très inhibé quand on est à Venise, et même on hésite à évoquer Venise dans un livre, tellement c'est chargé et plein de d'images et de force. Bon, mais on peut toujours trouver un petit biais secret pour l'évoquer.
Syndrome de Stendhal, c'est quelque chose que ça vous évoque, Venise?
Ah,
trop
oui.
De beauté.
Il y a des moments, oui, mais en même temps, je suis venu, je pense comme beaucoup d'entre nous, on a eu l'expérience de venir seul à Venise. Et on dit c'est la ville, il y a la ville pour aller à deux, évidemment, dans l'amour. Mais en fait, Venise, je pense, est une excellente ville pour venir seul. Et on ne se sent jamais seul à Venise. Pas à cause des touristes, hein, mais à cause de quand on se promène la nuit, par exemple, il y a une présence humaine extraordinaire dans la ville qui vient de l'eau et des pierres. Pas des êtres humains, mais il y a quelque chose qui, c'est vrai. Bon, c'est un lieu commun, mais. On ne peut pas ne pas dire des lieux communs à Venise.
Paul Agnew, je me demandais si c'était une ville dans laquelle vous aimeriez vivre.
Je vous rappelle que je suis écossais de l'origine, et donc je viens de Glasgow. Et donc la chaleur et surtout l'humidité de Venise est un peu différent de celle de Glasgow, malgré le fait qu'il y a des canals à Glasgow. Et également, la Venise moderne, je l'adore toujours, mais il y a un côté un peu Disneyland, et ça je regrette un peu, je crois que j'aurais trouvé ça difficile à vivre dans le quotidien. Et aussi, je crois que moi j'adore venir souvent à Venise, mais pas tous les jours, parce que je crois que si j'étais ici tous les jours, ça perdrait ça, le magique et le théâtre pour moi et l'essentiel de Venise. C'est l'inspiration de Venise. Et je veux jamais perdre ça. Je veux jamais me trouver frustré d'être à Venise, parce que c'est en même temps une des villes les plus exceptionnelles sur Terre.
Thank you.
Dans ses esquisses vénitiennes, Henri de Régnier écrit ceci. N'est-ce pas ici un lieu étrange par sa singulière beauté ? Dites Venise, et vous croirez entendre comme du verre qui se brise sous le silence de la lune. Venise, et c'est comme une étoffe de soie qui se déchire dans un rayon de soleil. Venise, et toutes les couleurs se confondent en une changeante transparence.
On est dans la ville des cloches, donc...
Et à Venise, Paul Agnew et les Arts Florissants interprétaient ce sixième livre des Madrigaux de Monteverdi dans le cadre du festival Monteverdi Vivaldi, organisé par le Centre de Musique Baroque de Venise. Et puis il y a donc le disque, c'est le premier opus d'une série de trois volumes qui constitueront une anthologie des Madrigaux. De ces huit livres donc, c'est une coédition des Arts Florissants avec Radio France. C'est la fin de l'ère des lieux. C'est Agnès Catou qui a réalisé cette émission. Un grand merci à elle. Stéphane Desmond qui était avec nous pour le mixage et à Céline Tranouvelle qui prépare nos équipées musicales. Toutes les infos, la réécoute et le podcast, c'est sur francemusique.fr.